L'Agence francophone des écolos et le club Niragongo, deux structures œuvrant au Nord Kivu, ont initié une pétition dans laquelle elles proposent le découpage territorial de cette province. C'est pour, disent-elles, faire face au problème de mal-vivre entre les communautés locales qui engendrent des violences à répétition. Cependant, cette idée ne fait pas l'unanimité au sein des organisations de la société civile et des notabilités du Nord Kivu. Comment analyser cette initiative? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois Maître Innocent Séguiobé. Bonsoir Maître.
Bonsoir.
Vous êtes président du club Niragongo, structure qui soutient la pétition. Jean-Chrysostome Varmuti Mukesiaira, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national de la majorité présidentielle, élu de Lubero, vous rejetez la pétition. Maître Soudi Kimputo Alimasi, bonsoir. On me signale qu'il est en ligne, oui. Maître Soudi, bonsoir, vous nous suivez?
Bonsoir.
Merci. Vous êtes expert en décentralisation. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Une pétition initiée par l'Agence francophone des écolos et le club Niragongo propose le découpage territorial du Nord Kivu. C'est pour, disent-ils, faire face au problème de mal-vivre entre les communautés locales, lesquelles engendrent des violences à répétition. La pétition en cours de signature suscite déjà de nombreuses réactions des forces vives de la province. Gabriel Wamenya.
Dans ces documents dont la date d'élaboration n'a pas été précisée, les pétitionnaires motivent l'idée du découpage territorial par les cycles de violences qui caractérisent les différentes communautés du Nord Kivu. Ils évoquent surtout ce qu'ils appellent les clivages tribaux entre le Grand Nord et le Grand Sud. Jean-Claude Ngoy, l'un des pétitionnaires, explique.
La province du Nord Kivu pose énormément de problèmes à notre République. Est-ce que il n'y a pas lieu que chacun reste chez soi? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il y a d'autres qu'on conteste, qui sont chassés, qui sont tués.
Lesquels?
Je parle des Miliki.
Cette idée ne fait pas l'unanimité au sein des organisations de la société civile et de certaines notabilités de la province. La première réaction est celle du bureau d'études pour le développement de Walikale Bedewa. Prince Kiang, son secrétaire exécutif, parle d'un plan diabolique.
Nous nous insurgeons contre ces projets que nous qualifions de macabres. Le découpage territorial de la province, c'est la pire des solutions qui puissent exister. Parce que ça ne va pas nous aider à résoudre les problèmes, mais plutôt, ça va envenimer la situation. Même le calme qui commençait à s'installer sera détruit.
Notons que d'autres mouvements citoyens en province se sont déjà inscrits en faux contre ces projets. C'est le cas notamment du mouvement citoyen Congo Conscience. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Merci Gabriel Wamenya. Maître Innocent Séguiobé, président du club Niragongo, structure qui soutient la pétition. Dans les détails, quelles sont les vraies motivations qui soutiennent votre initiative?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je tiens à vous remercier, à remercier la Radio Capi ainsi que tous les auditeurs qui nous suivent en ces lieux. Autour de cette question, une question très cruciale, une question de société et, comme vous l'avez dit, une question d'actualité. Je suis du Nord Kivu et je soutiens effectivement le projet du découpage. C'est pourquoi je me retrouve ici pour soutenir et partager mes points de vue avec l'ensemble de mes compatriotes au travers de la République démocratique du Congo. En effet, vous savez que notre province, le Nord Kivu, une province riche en sources naturelles, en richesses naturelles, riche en biodiversité, riche en culture, pratiquement une province qui était le grenier de toute la province, a sombré, hélas, dans un cycle de violence, dans un cycle de criminalité. Bref, son développement a été bloqué. Et les causes sont lesquelles? Quelles en sont les causes? Et pourquoi, en fait, la grande question qu'on se pose, on en est là? Pourquoi on en est arrivé à la pétition, au projet du découpage? Je voudrais résumer le fait en trois grandes approches. Il y a les approches que moi j'ai qualifiées des approches socio-géosociologiques. Il y a des approches que j'ai qualifiées de constitutionnelles et peut-être de base légale. Et enfin, il y a des approches géopolitiques. Qu'est-ce que nous entendons par l'approche sociogéologique? Vous savez, la province du Nord Kivu est habitée par une dizaine de groupes ethniques, dont deux grandes se rivalisent le leadership. Là, je cite les Hutus et les Nandés. Et vous êtes sans ignorer que, il y a évidemment une actualité récente, les médias nous ont fait savoir d'un certain conflit, d'une guerre qui existait entre Hutus et Nandés. Effectivement, il y a ce problème. Donc, lorsqu'on parle des approches géosociologiques, on voit la rivalité ethnique. On voit, vous avez parlé dans votre introduction, le mal-vivre. Effectivement, il y a un mal-vivre. Il y a, dans ce qu'on constate chez nous, au Nord Kivu, une scission de fait. Vous le savez que, je ne voudrais même pas aller loin de nous. Nous voudrions nous rapprocher de faits ici, proches, notamment, quelqu'un a parlé de Miriki, je veux parler de Lubero, je veux parler de cas de Régé, des autres communautés non originaires qui occupent pratiquement la partie qu'on a de fait appelée Grand Nord. Vous allez voir que le Grand Nord, finalement, il est resté une entité bien cernée, bien carrée, où les autres non-originaires, je veux dire, les autres communautés du Nord Kivu ne peuvent pas ou ne sont même pas autorisées à s'y investir.
Alors l'approche constitutionnelle?
Je ne vais pas encore finir sur l'approche sociologique. Vous avez vu à Lubero récemment ce qui s'est passé. Carrément, on a demandé aux non-originaires, aux Hutus, je veux dire, de rentrer et de partir, de quitter. Le prétexte était que il fallait écouter, c'est du Rwandais, c'est déjà qui amène l'insécurité. Mais vous avez suivi avec moi que quitter Lubero, sous prétexte qu'on est Rwandais étranger, mais on s'arrête à Rutshuru, la personne qui chasse s'arrête par là. Donc il y a ces gènes. Et pour peut-être...
À ce niveau-là, maître, en parlant de scission de fait, et donc vous pensez que cette scission étant de fait, comme vous le dites, il ne restait juste qu'à la confirmer officiellement?
Effectivement. En fait, ce projet, je crois en premier lieu, il va bénéficier aux amis, aux habitants du Grand Nord. Ce projet a existé depuis très longtemps. On l'appelle Grand Nord, pourquoi? Je ne connais pas une seule entité administrative qui s'est nommée Grand Nord. C'est dans le mental, c'est dans le subconscient. Donc c'est une scission de fait qui existe. Et dans le comportement, dans le vécu quotidien, c'est vécu et c'est connu de tous. Je voudrais peut-être revenir au deuxième, parler de l'approche constitutionnelle.
Oui.
Parce qu'à ce niveau-là, vous allez vous rendre compte que beaucoup de bouches ont parlé autour de ces projets de découpage. Il y en a qui ont soutenu qu'il s'agit d'une violation constitutionnelle, un projet démoniaque, un projet venu je ne sais pas de quel enfer. Mais en réalité, nous sommes dans un processus constitutionnel. Ceux qui soutiennent la motion ne sont pas allés loin de nos textes réglementaires. L'article 4 de la Constitution nous dit ceci. La République démocratique du Congo a 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Et je pense l'alinéa suivant dit que d'autres entités administratives, d'autres provinces peuvent être créées par démembrement. Voilà les soubassements constitutionnels. Nous sommes dans une démarche donc, je veux dire... républicaine et constitutionnelle.
Alors, maître, on sait que le Nord Kivu était la province pilote hein, en termes de découpage 85-86. Ce découpage, selon vous, n'aurait pas tenu compte de ces problèmes sécuritaires, économiques que vous évoquez maintenant.
Effectivement, je crois qu'il faut avoir peut-être une pensée tournée vers l'histoire. Ce qui a été aussi à la base, c'est aussi cet aspect géosociologique. Les découpages de 1986, si je ne m'abuse, avaient aussi pour soubassement non seulement rapprocher l'administration de l'administrer, les administrer à l'administration, mais aussi régler ces problèmes. Au Nord Kivu, le problème de vivre ensemble a commencé à se poser à l'aube de l'indépendance, même quelques années après l'indépendance. C'est depuis 1962.
Mais si pourquoi seulement aujourd'hui, cette pétition, vous l'exposez sur la place publique aujourd'hui?
Et pourquoi pas aujourd'hui? Monsieur le journaliste, vous savez que le problème de cohabitation pacifique s'est posé il y a bien longtemps. Beaucoup d'autres solutions ont été envisagées. Je voudrais vous parler que moi, personnellement, j'ai assisté à plusieurs conférences sur la paix au Nord Kivu. J'ai vu des réunions ministérielles faire le descente à Lubero, à Beni, à Rutshuru, au Nord Kivu finalement, pour chercher la paix,
merci.
Pour faire à ce que, si vous me permettez, je pense que c'est important, les gens vivent ensemble.
Mais ça n'a pas marché.
Jusqu'à présent, ça n'a
voilà,
pas marché.
Voilà, souffrez, maître, que je vous arrête à ce niveau. Jean-Chrysostome Vamwiti, Mukesia Ira, vous êtes député national de la majorité présidentielle, élu de Lubero Nord Kivu. Vous rejetez cette pétition, pourquoi?
Je la rejette de la façon la plus absolue. D'abord, attaqué parlementaire, je n'aurais pas dit anticiper, parce que la création d'une province, c'est une procédure constitutionnelle et institutionnelle. Que ce soit en 1962, où le Nord Kivu a été érigé à province, ou le 22 juillet 88, c'est toujours par une loi du Parlement 62 et une ordonnance présidentielle. Donc, j'estime que il ne revient pas à des associations francophones des écolos ou de clubs Nyiragongo qui devaient s'occuper de gorilles de montagne, qui devaient s'occuper de surveiller l'activité volcanique, d'orienter la population vers des questions qui cassent l'unité de notre province. Et là, je suis tenté de soutenir, or j'étais opposé, le projet de loi recadrant les activités des ASBL. Parce que le ministre de la Justice nous a déposé un projet de loi. Comme je suis le fruit de ce monde des ONG, j'étais opposé. Mais à suivre l'évolution qui se passe dans ma province, je suis tenté de croire. Alors, je veux me fourvoyer dans une approche historico-politique. J'espère que vous me laisserez le temps. Il est impossible de comprendre ce qui se passe au Nord Kivu sans passer par l'histoire politique de cette province. Trois faits que je vais souligner.
Allez-y tout en respectant le temps parce qu'on a le chrono qui est devant.
Nous avons 45 minutes.
Allez-y.
Aux élections municipales du 22 février 1959, la ville de Goma a eu 7 conseillers. Et parmi les 7 conseillers, 3 étaient des Nandé. Ça, c'est la ville de Goma. Le 22 février 1959. En 1960, le commissaire de district, parce que le Nord Kivu faisait partie de Kivu Maniema. Le Nord Kivu était district. Le commissaire de district, c'était Pierre Ruyange et Hutu. Et son adjoint, le commissaire de district adjoint, c'était Enande Pierre Kigeri. Premier constat important. Il est erroné de considérer les Nandé comme des arrivistes d'Arutshuru et Goma, car leur présence politique date d'avant 1960. Fait politique donné. Il est aussi indéniable que Nandé et Hutu ont toujours coexisté dans la politique du Nord Kivu depuis les années 60. Je viens de vous dire que Enande a été adjoint de Hutu comme commissaire de district. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième, c'est que en 1960, le Nord Kivu a été représenté au gouvernement central par deux Hutus du Nord Kivu et un Nyanga. Il s'agit précisément de Marcel Bisukiro, de Gervais Bahizi et d'Alexandre Mahamba. Donc, les Nandé qui représentaient la moitié des députés du Nord Kivu n'ont pas été représentés dans le gouvernement de Méry Patrice Lumumba. La même chose s'est passée à Bukavu dans le gouvernement du Kivu Maniema, où les Nandé n'ont eu aucun ministre provincial dans le gouvernement de Miruo. Je tire deux conclusions. Les Hutus et les Nandé ne sont pas nouveaux dans la politique du Nord Kivu. Et ça, parce que moi j'aimerais être objectif, c'est un fait. Et deuxièmement, l'exclusion ou le tribalisme au Nord Kivu n'est pas l'effet de Nandé. La première tribu à avoir été tribalisée, avoir été exclue, ce sont les Nandé. Parce que nos politiciens de 60 ne pouvaient pas accepter que représentant la moitié des élus du district de Nord Kivu puissent être totalement absents et dans le gouvernement central et dans le gouvernement provincial. Mais on présente toujours les Nandé comme des tribalistes. À Bukavu, il y avait Cyprien Rwakabuba et il y avait Nepomucène Rwaireka.
Alors, c'est très important, Honorable Vamwiti, les faits historiques, mais on ne pourra pas tout dire dans 45 minutes. Et donc, pour vous, je retiens que cette démarche n'est pas constitutionnelle et que les Nandé et les Hutus ont toujours vécu dans la paix.
Elle peut être constitutionnelle parce qu'une pétition est prévue dans la Constitution. Mais une démarche peut être constitutionnelle, mais elle doit se conjuguer avec une approche politico-historique. Le Nord Kivu, c'est une province post-conflit. Nous sommes en train de reconstruire la paix.
Alors, les problèmes posés par les pétitionnaires, représentés ici par Maître Innocence et Guillaume, posent notamment des questions de sécurité, une session de fête au niveau du Grand Nord. Comment vous, vous comprenez ça?
Avant de répondre à cette question, qui n'est qu'une question de déconcentration, heureusement nous avons un expert à décentralisation qui nous suit. Quand on gouverne un espace, prenons le ministère de l'enseignement primaire et secondaire qui crée des provinces scolaires. Ce n'est pas seulement au Nord Kivu qu'on a provinces scolaires Nord Kivu 1, Nord Kivu 2, c'est dans toutes les provinces. Quand on crée des zones de santé, ce sont des entités qui sont partout. Et nous qui avons été dans les stratégies électorales à 2006-2011 et aujourd'hui, ce n'est pas seulement au Nord Kivu qu'on a des considérations géopolitiques. Là où il y a les fleuves, on a la rive gauche et la rive droite, dans plusieurs provinces. Dans le Sangourou, on a la plaine, telle de la plaine et de ceci. Et ailleurs, on a le nord et le sud, on a l'est et l'ouest. Pourquoi le Nord Kivu doit se particulariser pour toujours freiner son développement? Et j'ai fait important, permettez, j'ai fait important pour vous dire que cette question a été résolue. Vous serez surpris.
Comment?
En 1962, lorsque le Nord Kivu se sépare du Kivu Maniema, créé comme province, le territoire de Rutshuru et la ville de Goma refusent de rejoindre le Nord Kivu. Ils préfèrent rester dans ce qu'on appelait le Kivu central, c'est le Sud Kivu. Pendant 3 ans, ils sont restés en dehors, ils sont restés en dehors du Nord Kivu. Le chef lieu de la province a été déplacé de Goma à Kiroche. C'est en 1965, par un référendum populaire des populations de Rutshuru et des populations de Goma, que les deux territoires, donc la ville de Goma et le territoire de Rutshuru, sont revenus dans le Nord Kivu. Historiquement, la question a été résolue par un référendum populaire qui ne peut pas être remis à cause par une petite pétition.
Alors, c'est donc pour vous, brièvement, c'est une question inopportune.
C'est même provoquer l'histoire. C'est de l'amnésie historique.
Merci. Maître Soudi Kimputwa Limasi, vous êtes expert en décentralisation. Vous avez suivi les deux interlocuteurs, Maître Segui Obé et l'honorable Vahamwiti. Quelle est votre analyse? Maître Soudi? Voilà, je pense que nous l'avons perdu. Nous allons prendre Maître Segui Obé pour vous, cette réaction qui nous vient de Kikwit.
Grâce Kavati, province de Kwilu, ville de Kikwit. Sur quel soubassement juridique ces organisations font leurs initiatives? La résolution des conflits passe par la présence de l'autorité de l'État, la conscience de la communauté concernée et des sanctions exemplaires à l'endroit des semeurs du soulevé. Ces organisations, à vrai dire, ne réclament pas la division du Nord Kivu, mais la balkanisation de la RDC. Or, les conflits communautaires sont presque partout et dans les provinces aussi plus vastes que celles du Nord Kivu.
Dans le même sens, Maître Innocent, veuillez d'abord nous excuser pour la qualité pas très bonne de cet élément, mais j'ajoute cette réaction d'Alicia Thibault-Rouancolé qui dit « On ne peut pas découper à tout bout de champ à chaque fois qu'il y a deux tribus ou plusieurs qui s'affrontent. Ceci est la conséquence de l'échec de la décentralisation, mais aussi de l'absence d'un plan de résolution des conflits. Découper n'est pas solution. C'est l'État qui est le premier responsable, car il oppose les gens. C'est à lui d'instaurer l'autorité de l'État et obliger les tribus à vivre en communauté sous l'autorité de la même loi. Le vivre ensemble doit être le socle de notre existence comme citoyen dans ce pays. » Maître Segui Obé.
Merci bien. Je remercie les auditeurs pour leurs questions. Je voudrais plutôt commencer à répondre à l'interrogation que l'honorable a posée ici, parce qu'il a été le premier à poser des questions. Et je voudrais me rassurer que nous parlons de la même histoire du Nord Kivu. Heureusement, il a eu à corriger sa première inquiétude lorsqu'il pensait que nous ne sommes pas dans une procédure constitutionnelle. Il a compris que nous exploitons la loi que eux, députés, nous ont produite. Donc la loi, les articles 4 et article 218 principalement. Nous ne sommes pas écartés du cadre constitutionnel. Je pense que c'est un rectificatif important. Mais lorsqu'il revient à l'histoire, effectivement, l'histoire du Nord-Kivu, depuis les années de l'indépendance, est écrite, hélas, en lettres de feu et de sang. Et en partie, c'est à cause du leadership Nandé. Au Kivu, chaque fois que nous avons eu des leaders Nandé à la tête de la province, c'est tout le malheur des autres peuples. Il a parlé de l'histoire. Je voudrais revenir à l'histoire. Je prends les années 1962, entre 62 et 64, lorsque M. Paluku Denis est à la tête de la province. Vous savez, c'est à ce moment-là, lorsque le concept Banyarwanda est venu. Vous savez, il a dit, nous devons faire la guerre contre les Banyarwanda. Par là, il faut entendre ceux-là qui parlent, les Hutu et les Tutsi. Et plus proche, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retarde trop dans les aspects historiques, en 1990, entre 90 et 93, la fameuse guerre dite de Kanyarwanda, c'est encore un gouverneur Nandé qui s'appelle Kalumbo Mbo, vous allez m'excuser.
Mais maître, il n'y a pas que les Nandé au Nord Kivu, il y a plusieurs tribus.
Effectivement, nous voulons singulariser cette gestion parce que c'est pendant cette gestion qu'il y a toujours des troubles. Et la chasse à l'homme a toujours été faite contre cette population qualifiée de rwandaise. Kalumbo Mbo, gouverneur, vous savez le slogan qu'il a dit? Il a lancé un slogan, il dit « Pas qu'à Gisenyi ». Qu'on les chasse tous jusqu'au Rwanda. Un gouverneur, nous avons des preuves. S'il vous plaît, je pense que vous allez me laisser le temps parce que j'ai beaucoup de questions à répondre.
On n'a pas que tout le temps, Maître Soudi est en ligne, il va aussi intervenir. Je reviens à vous tout à l'heure, s'il vous plaît. Maître Soudi, est-ce que vous êtes en ligne?
Je suis en ligne.
Voilà, je disais tout à l'heure que j'espère que vous avez suivi les interventions de Maître Segui Obé et de l'honorable Vahamwiti. Quelle est votre analyse à ce niveau du débat?
Merci beaucoup. Mon analyse est que nous sommes dans un sujet très, très dangereux. Un sujet extrêmement dangereux, dont les conséquences, et je prends l'opinion en témoin, que si les auteurs des sujets pour lesquels nous sommes en train de débattre ne sont pas conséquents sur ce que, permettez-moi le pléonasme, j'estime qu'il est nécessaire dans ces cas, c'est que ceci peut entraîner comme conséquence au cas où il gérerait mal ce processus. Je suis en train vraiment de devenir de plus en plus inquiet. J'ai suivi qu'on a dit que la cause, l'une des causes principales, c'est les cycles de violence. J'ai suivi les intervenants, je crois que ça doit être le premier intervenant qui a parlé du clivage tribal entre le Grand Nord et le Sud. Mais selon la connaissance du pays que nous savons que le Grand Nord est dominé par la tribu Nandé et ce qu'on appelle le Grand Sud est dominé par les Hutu, les Kumu, les gens des plusieurs tribus qui se trouvent par exemple à Masisi, à Walikale, etc. Loin du débat juridique d'abord, parce qu'on va y revenir. On ne peut pas résoudre un conflit tribal par un découpage. Parce que le découpage, en principe, c'est pour promouvoir le développement local, rapprocher les gouvernants des gouvernants.
Maître Soudi? Voilà, malheureusement, nous l'avons perdu. Honorable Vahamwiti, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kalemi.
Ouais. C'est Clovis Madiodio depuis Kalemie. À mon avis, cette idée est parfois bonne et en même temps mauvaise. Elle est bonne parce que la population elle-même qui a initié cette pétition. Elle a vu que la cohabitation pacifique ne tiendra qu'à peu de temps, tandis que ce découpage paraît une solution éternelle. Elle est mauvaise parce qu'elle impactera négativement le processus électoral en cours.
Alors j'ajoute honorable cette réaction de John Odiane qui dit en analysant la pétition, à mon avis, si une partie de la population arrive à réfléchir dans ce sens, le découpage territorial, cela montre la gravité de la souffrance et de l'insécurité que vit cette population, car aucun homme sur cette terre n'acceptera de vivre dans la guerre, la souffrance, viol et conflit à répétition pendant plus de 20 ans. Honorable Vahamwiti.
Merci beaucoup. D'abord, il y a une fausseté de la part de mon frère Innocent qui a dit que 62, c'est Paluku Deni qui était gouverneur. Il faut connaître bien l'histoire de votre province. À la création de notre province du Nord Kivu, parce que moi je suis Nandé, c'est Bénizé Timoulay qui est le premier gouverneur qui a été installé en 62, et Deni n'est revenu qu'après, dans les années 64. Si vous ne le savez pas, il faut le noter innocent. Deuxième chose, de toutes les guerres qu'a connues le Nord Kivu, aucune n'est partie de la partie habitée par les Nandés. Que ce soit toutes les petites guerres, que ce soit les grandes guerres qu'on a connues dans la décennie 90, toutes ces guerres commencent toujours dans la partie sud. Je ne dis pas que c'est voulu par la population. Et troisième chose, je l'ai dit et je le répète, il y a eu un référendum populaire le 18 septembre 1965. Un référendum est plus fort. Le peuple de Rutshuru de Goma a fait son choix. Et à 90%, la population de Rutshuru a opté pour un Kivu uni, un Nord Kivu uni. Et à Goma, à près de 70%. Donc, quand il y a des décisions historiques, nous devons les encourager. Et je trouve, même si la Constitution prévoit qu'il faut on peut créer de nouvelles provinces, il ne dit pas qu'on se réveille le matin, au lieu de brosser sa bouche, on dit qu'on crée une province. Il faut l'opportunité politique.
Honorable Vahamwiti, oui. Je parle bien au conditionnel. Est-ce qu'il ne s'agirait pas des problèmes, peut-être des problèmes réels, mais qui seraient peut-être mal posés?
Je vous dirais que le problème n'est pas réel. Moi, je vous ai dit que mon approche pour comprendre la question du Nord Kivu, elle est politico-historique. Et je vous rappelle qu'en 1960, tous les députés du Nord Kivu, la grande partie des députés du Nord Kivu, nationaux et provinciaux, sont élus dans un même parti politique. C'est le CEREA, le Centre de Regroupement Africain. Que ce soit les députés élus à Beni, à Butembo, à Lubero, dans le Rutshuru, au Masisi, à Goma. C'est pour vous dire que les populations du Nord Kivu ont toujours été ensemble. Ce sont par contre des jongleries politiques. Et même la preuve, pendant la guerre du RCD, le Nord Kivu a été divisé de fait. Chef lié à Goma, chef lié à Beni. Mais après, chaque fois qu'il y a eu de velléité de séparer le Nord Kivu à deux, la population, la volonté de vivre ensemble a toujours prédominé. Même pendant la conférence à Mani, à 2008 à Goma, le même schéma de scinder le Nord Kivu a été, et ça a toujours été mis en échec.
Merci. Maître Soudi, est-ce que vous êtes en ligne?
Je suis en ligne.
Voilà, vous parliez d'un sujet, vous disiez avant qu'on traitait un sujet extrêmement dangereux, aux conséquences qui peuvent être incalculables si cette question n'est pas bien gérée. Et avant que votre ligne se coupe, vous disiez qu'on ne peut pas résoudre un conflit tribal par un découpage.
Tout à fait. Parce que le découpage, c'est une technique de décentralisation qui permet de rapprocher les gouvernants des gouvernés, en vue de promouvoir le développement local. Mais lorsque, dans une entité où des gens ont vécu des décennies ensemble, quels que soient les problèmes qui peuvent arriver, procéder par un découpage, ça signifie donner un feu vert ou un go sur quelque chose de non maîtrisable. Prenons le cas du Nord Kivu aujourd'hui. À supposer qu'on veut déterminer les territoires de ces deux peuples. Parce que les intervenants, lorsque je les ai entendus, il y a un intervenant qui a parlé du fameux Grand Nord, où se trouveraient les Nandés, et le Sud, où se trouveraient les Hutus, parce que principalement ce sont les deux communautés qui se combattent. Mais il y a d'autres communautés. Et la pratique, c'est qu'il y a aussi des Nandés au Sud. Quel sera le sort des Nandés qui vont se retrouver dans la partie sud? Est-ce que les Hutus qui sont dans le sud, ils vont dépeupler les Nandés qui sont au sud pour les retourner dans leur cité province au nord? Et les Hutus qui sont au nord, c'est dépeuplés par les Nandés qui retrouvent leur nouvelle province au sud? Je reviens sur l'aspect constitutionnel. Nous sommes dans un processus où il y a la question des élections, les verrouillages, les dispositions constitutionnelles, et ainsi de suite. La Constitution est claire, l'article 4 a prévu ce mécanisme, mais ce mécanisme ne doit se passer d'abord et avant tout par le processus constitutionnel. Ça veut dire que procéder au découpage signifie qu'on doit absolument réviser la Constitution. C'est notre Constitution qui délimite le nombre de provinces et la capitale qui est la ville de Kinshasa. La loi peut-être peut définir les modalités. Encore cette loi, nous ne l'avons pas encore. Vous voyez les risques que nous avons. Il est à la fois juridique, mais aussi sociopolitique. Il ne faut pas que les ambitions des politiciens de ces deux communautés puissent nous amener à sacrifier la population. Je vais prononcer un mot dur. Ça veut dire que mal procédé par ce qui a été lancé, nous risquons d'assister ou de former, même d'assister à un génocide dans ces pays. C'est très, très dangereux le sujet qu'on est en train d'évoquer. Et je pense que les acteurs de cette question doivent mûrir leur idée encore une fois avant de poursuivre.
Maître Soudi, j'ai posé presque la même question pratiquement à l'honorable Vahamwiti. Je disais que je parlais au conditionnel. Est-ce qu'il ne s'agirait pas des problèmes réels, mais qui seraient peut-être mal posés?
Les problèmes, je peux avouer qu'il est réel entre les deux communautés. Il y a un problème de lutte de leadership autour de cette province. Mais comment les Hutus et les Tutsis, ou les Emma et les Gendou ont essayé de résoudre ces problèmes alors qu'ils vivent ensemble dans la même communauté, dans les mêmes provinces, dans les mêmes pays? Je crois que c'est des faits, on peut trouver l'exemple de résolution de ces conflits dans ces deux communautés qui ont déjà procédé au génocide. Vous voyez, ici nous ne sommes pas encore arrivés à cette histoire. Il y a des tueries. Ce sont des manipulations des politiciens, parce que les Hutus et les Landes ont toujours mis ensemble. C'est un problème de gouvernance. Il y a cette communauté qui croit que l'autre dirige plus que l'autre, l'autre croit qu'en se séparant, je vais devenir moi aussi majoritaire pour mater les autres. La même revendication sera faite par les autres petites communautés. Vous voyez que nous risquons de nous plonger dans un cercle vicieux beaucoup plus compliqué que ce que nous sommes en train de penser.
Maître Soudi, s'agirait-il d'un échec des mécanismes de dialogue intercommunautaire?
Je pense que le dialogue n'a jamais été sincère. Le dialogue est beaucoup plus chapeauté par les politiciens. Les communautés elles-mêmes ne se sont pas encore parlé sincèrement. C'est là que je suis tout le problème. Tout est politisé. Quand il y a des mécanismes de dialogue, ça devient des grandes conférences où chacun doit venir exhiber. Et tout ce qu'ils connaissent, les politiciens doivent trouver les voies de positionnement, les problèmes de réintégration, de participation au gouvernement viennent sauver l'ensemble des négociations. Mais les deux populations ne se sont pas encore parlé sincèrement comme ça. Et c'est là où se trouve le problème.
Alors, Maître Soudi, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Émile Mulambo Ngoyi. J'appelle depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le morcellement de l'actuelle province du Nord Kivu n'est ni logique ni nécessaire pour résoudre le problème de cohabitation pacifique entre les ethnies. Le problème de conflit entre les ethnies est déjà résolu par l'élan de la décentralisation déjà amorcée dans notre pays, dont le but est de rapprocher les gouvernants et leurs administrés. L'État doit ainsi rendre effectif ce processus de décentralisation tout en prenant en compte le contexte sociopolitique et culturel pour instaurer ainsi un État de droit partout au pays.
J'ajoute, Maître, cette réaction de Chuck Mouigiroi de Lubumbashi qui dit « Le problème de cohabitation intercommunautaire en Nord Kivu ne peut se résoudre que par le dialogue et par une représentativité proportionnelle de toutes les ethnies dans l'équipe gouvernementale provinciale et même dans les entreprises et autres structures dans cette province. » Maître Soudi.
Je pense qu'ils sont en train de faire des propositions qui vont dans le sens de ma réflexion. Les dialogues, d'abord, c'est le maître mot. Et je pense que si c'est la gouvernance qui pose problème, nous sommes dans un processus de décentralisation. Aujourd'hui, comme on n'est pas parti encore aux élections locales, toutes les autorités qui dirigent la province se situent seulement au niveau provincial. Et cette question de majorité communautaire qui dirigerait, qui semble gêner d'autres communautés à l'intérieur de cette province, est réglée par les élections locales. Je ne vois pas un Landais être élu dans un groupement de Bouichard ou de Bouito, par exemple.
Je ne vois pas un leader Hutu être élu, par exemple, dans un groupement de Mandinga ou etc., etc., pour peu de connaissances qui sont de cette province. Mais je pense que les autres questions de leadership, parce qu'il faut faire attention, nous sommes dans une partie qui a connu des problèmes depuis 1994. Le pays a encore des séquelles jusqu'aujourd'hui, au point que nous avons des difficultés pour la vraie identification de l'ensemble de la population qui est sur ce territoire. Alors, au lieu de faire face à cette question, de régler pacifiquement, avec des négociations, du dialogue social, je le répète, nous sommes dans un autre cycle incontrôlable.
Voilà. Voilà, merci Maître Soudi. Maître Innocent Seguiobé, nous avons appris qu'il y a une autre initiative, une contre-pétition qui a été lancée, intitulée Pétition de l'unité, qui a pour objectif de bloquer toute initiative de scission entre les communautés, confirmer l'unité et la cohésion de toutes les 9 ethnies du Nord Kivu et barrer la route à la balkanisation. Finalement, la solution ne serait-elle pas le dialogue sincère entre les communautés? Noter comme le préconise Maître Soudi.
Dialogue sincère. Je voudrais dire que quiconque est autorisé à rêver par moment, parce qu'une pétition a pour vocation effectivement demander quelque chose qui n'existe pas. Lorsque la province est unie et qu'on demande encore l'unité de cette même province, je ne sais pas. Je ne voudrais même pas beaucoup y revenir. Je voudrais revenir aux faits, parce que beaucoup de questions ont été posées sur le mobile de la démarche. On a parlé de la balkanisation, on a parlé du sort des autres communautés. Je voudrais rassurer l'opinion, chers amis. La province, notre pays, il y a quelques années, nous avions 11 provinces, n'est-ce pas? Tout à l'heure, l'expert venait de nous dire que le découpage, c'est ce procédé qui voudrait rapprocher l'administration, les administrer à l'administration. C'est une nécessité, c'est un besoin d'administration ou un besoin de gouvernance. Pourquoi lorsqu'on doit demander le découpage Nord Kivu, on doit faire, on doit dire qu'il s'agit de la balkanisation?
Imaginez, maître, que toutes les tribus où il se pose des problèmes abordent la même démarche. Quelle deviendrait la République?
C'est ça l'amalgame qu'il faut lever. Il ne s'agit pas d'une démarche communautaire. Vous allez voir, la personne qui a même signé la pétition n'est pas du Nord Kivu. Monsieur Ngo, il est du Kassai. Le président de l'agence des écolos, il est du Kassai. C'est l'amalgame que les gens veulent créer dans l'opinion. Au Nord Kivu, on a instaurer les systèmes de mensonges, de la désinformation.
Alors c'est quoi la solution? Parce qu'il nous reste très peu de temps pour vous.
Je voudrais rassurer les autres communautés qu'il ne s'agit pas d'une démarche où les Hutus cherchent à dominer les autres. Un petit exercice avec vous. Aujourd'hui, la province du Nord Kivu compte 42 députés provinciaux. La partie dite Grand Nord en elle, seule, compte 21 députés sur les 42. Tous Nandés. La partie Grand Sud, donc la partie finalement, le reste, Rutshuru, Walikale et les autres, vous compte 21 élus, dont 8 Hutus seulement.
Alors, mais c'est une démarche ethnique que vous réfutez, malheureusement.
Non. Laisse-moi le temps d'éclairer l'opinion.
Malheureusement, maître, on n'a pas tout le temps. Honorable Vahamwiti, réagissez au propos de maître Seguiobé.
Vous comprenez avec moi qu'il s'agit d'un débat ethnicisé. Nous sommes dans une démocratie. Vous ne pouvez pas commencer à dire il y a 22 Nandes, il y a autant, encore que tous les 21 ou 22 ne sont pas des Nandes. Au Grand Nord, il y a d'autres tribus, à l'Assemblée nationale, il y a deux Talinga, il y a des pères à l'Assemblée provinciale. Vous comprenez que l'approche est faussée par une ethnicisation très dangereuse, comme l'a dit l'expert, à décentralisation. Alors,
la solution, c'est quoi?
La solution, elle est là. La province du Nord Kivu est gouvernée aujourd'hui sur base d'un consensus. Et je suis parmi les gens qui ont été là, parce qu'à janvier 2007, je suis candidat gouverneur de la majorité présidentielle, nous avons élaboré un consensus du partage du pouvoir. Parce qu'on donne l'impression que les Nandes ont tout pris. Et le premier poste le plus important de la province revient au Hutu, c'est la présidence de l'Assemblée provinciale. On a mis d'abord Barianga, qui a été remplacé aujourd'hui par Gilles Hakuzimwami, qui est un Hutu, membre du parti de Innocent Senghiouve, président de l'Assemblée. Le gouverneur est Nande. Le vice-gouverneur est Hunde. Ce sont les trois espaces. Il y a un tout, je crois, au budget, aux finances. Tout le monde se retrouve dans le pouvoir. On a vu Kyungu Wakumanza, président de l'Assemblée provinciale du Grand Katanga, qui a joué le rôle. Le premier poste dans une province, c'est la présidence de l'Assemblée.
Et donc, pour vous, la géopolitique est
elle
respectée.
Elle est respectée, mais on masque au niveau national et international. On cherche à masquer les choses. Quand on dit on a chassé les Nandes, qui n'est pas au courant qu'à Beni, on est en train de tuer les Nandes? Que partout, ce sont des Adefnalu. Qu'il y a des maïmaï partout, d'Abeni Lubero. Qu'il y a des, chaque fois qu'il y a des milices, que la sécurité n'est pas assurée, merci. Il n'y a pas qu'une seule tribu qui paye. C'est tout le monde qui fuit.
Merci.
Alors,
Allah.
Les Hutus fuient de Lubero vers Erchou.
Merci. Je vous redonne la parole pour les conclusions parce que vous avez atteint presque le même temps de parole que Maître Seguiobé à quelques secondes près. Maître Soudi, finalement, c'est une situation, c'est une question très sérieuse, comme vous l'avez dit. Que faut-il faire en ce moment? Que doit faire le gouvernement de la République? On ne l'entend pas, on n'entend pas les officiels parler.
En tout cas, les émissions de la radio Papi, ce sont des archives de notre pays. Ma position, c'est de demander aux deux communautés de s'asseoir. Si réellement, peut-être, la question de la densité d'une communauté jeune et d'une autre communauté, c'est mieux qu'ils définissent peut-être un acte de gestion de la province, si c'est ça la question qui les dit. Entre les différentes communautés, on ne parle pas que de la communauté Nandé. Il y a d'autres communautés qui se trouvent pratiquement dans les territoires de Walikale, etc. Maxifi, pour que cette gouvernance soit tout à fait équilibrée. Dans la vie démocratique, on aura toujours des majorités et des minorités. Il faut aussi veiller aux intérêts des minorités quand on est en face des détenus majoritaires. C'est tout simplement ça qu'il faut régler entre toutes ces communautés-là de manière sincère. Procéder par démembrement. À cet instant-ci, je pense que s'il faut donner un conseil aux initiateurs de cette pétition, ils devaient réfléchir autrement pour trouver une solution entre ces différentes communautés.
Et en guise de conclusion, Maître Soudi, qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous?
Ce qu'il faut retenir pour moi, je pense que c'est le droit tout à fait constitutionnel des initiateurs de la pétition. Mais c'est vraiment inopportun et j'ai le conseil de retourner autour de la table et de fixer un pacte de gestion, si c'est cela qui gère cette communauté, pour que ça se fasse de manière pacifique.
Merci Maître Soudi Kimputu Alimasi. Je rappelle que vous êtes expert en décentralisation. Maître Innocent Seguiobé, il faut déjà conclure. Pour vous, vous parliez d'apaiser les autres communautés.
Effectivement, lorsque je parlais d'apaiser les autres communautés, c'est cet équilibre dont je voulais démontrer, effectivement. Les Hutus ne seront pas majoritaires. Il y en a qui font croire que non, on va écraser les autres communautés. Ils ne seront même pas 50% de l'U au niveau de la province, a fortiori au niveau national. Donc, c'est de l'amalgame que les gens sont en train de créer autour de cette communauté. Nous cherchons le mieux vivre. L'honorable, tout à l'heure, nous a parlé de nos régions, de la cohabitation dans les Grands Nord. Je crois que nous ne devons pas fausser l'histoire. Il le sait très bien. Il y a peu, on a... Et puis, on a fait l'épuration ethnique dans le Grand Nord.
Qui n'est pas encouragée.
Nous le déplorons. Les solutions ont été envisagées. Et aujourd'hui, nous pensons, avec les autres, pour conclure, parce qu'ils nous demandaient de conclure, on a essayé les dialogues. On a été sur les tables. Il y a eu des dialogues entre Nandé, entre toutes les communautés du pays. Et aujourd'hui, nous pensons que...
Et c'est par là que vous terminez.
C'est par là que je vais terminer. Le découpage territorial, pour nous, est porteur d'espoir.
Merci.
L'histoire nous apprend-elle...
Merci, maître.
Je pense que... Merci. Laisse-moi le temps de bien
merci,
conclure.
Merci, maître. Il nous reste moins d'une minute, honorable Vahamouïti, conclusion.
Ma conclusion est que, dans ce pays, nous sommes plus de 400 tribus, et on ne peut pas faire 400 provinces. Nous sommes un État et une nation à pleine construction. On doit favoriser la construction de la République. Et le pouvoir est bien partagé, comme je viens de le développer. Il n'y a aucune tribu qui est mise à l'écart du pouvoir. Il s'agit donc de petits calculs égoïstes qui n'ont pas de place. Et le dernier, pendant 5 ans, la maire de ville adjointe de Beni était Hutu. 5 ans, personne ne l'a chassé.
Ne faudrait-il pas prendre en compte ces frustrations exprimées aussi, honorable Vahamouïti?
Mais les frustrations sont de part et d'autre, je l'ai démontré. Ce sont les Nandé qui ont été les premiers à être exclus du pouvoir en 1960.
Merci monsieur. Cette émission est terminée. Restez branchés sur la radio de la paix. Au revoir.